Si vous tapez hashtag dépression sur Instagram, par exemple, vous tombez sur presque 24 millions de publications. Ces réseaux sociaux ont sûrement libéré la parole autour de la santé mentale, tout comme la pop culture, des séries, En thérapie sur Arte ou 13 Reasons Why, mais aussi ces stars de la musique ou du sport, Mariah Carey ou Kanye West, qui évoquent leur bipolarité, la joueuse de tennis, Naomi Osaka, qui dit souffrir d'anxiété, ou l'athlète Simone Biles, qui s'est retirée des JO pour, dit-elle, se concentrer sur sa santé mentale. Tout ça fait sauter des verrous. Pour autant, le tabou persiste. Les réticences à en parler avec sa famille sont encore nombreuses et jusqu'à présent, les réseaux sociaux n'ont jamais guéri personne. Psy 2.0, est-ce qu'un écran, c'est mieux qu'un divan? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
Et bien sûr, on attend vos questions, vos réactions, vos expériences aussi hein, sur l'appli ou sur le site de France Inter. Mais comme tous les jours, on ouvre l'émission en feuilletant le journal et c'est Philosophie Magazine qu'on feuillette aujourd'hui avec vous. Martin Legros, rédacteur en chef du journal, bonjour.
Bonjour Thomas Chauvineau.
D'ailleurs, je dis feuilletant, mais en fait, c'est même sur Internet qu'on va trouver aujourd'hui ce dont on va parler. Vous consacrez un article à George Orwell, Antidote, écrivez-vous, à tous les délires idéologiques.
Oui, c'est dans le fil d'un hors-série qu'on avait consacré à Orwell, parce qu'il nous est apparu dans le moment présent, il y avait une nouvelle tension, un nouveau climat idéologique où de plus en plus, que ce soit à gauche ou à droite, chacun se renvoie la balle et classe l'autre, n'écoute plus ce qu'il dit. Les uns sont supposés des islamo-gauchistes, les autres des néo-réactionnaires, les autres des woke, les autres des... tout le monde accuse l'autre pour des accusations, n'écoute plus ce qu'il dit mais d'où il parle. Or, c'est un climat idéologique que Orwell avait très très bien décrit, pour lequel il fournit des armes précieuses à travers des histoires, de très belles histoires, de très beaux romans, de Hommage à la Catalogne jusqu'à évidemment son chef-d'œuvre 1984. Ce sont des récits, des histoires qui nous permettent en quelque sorte de guérir ou de trouver des remèdes à cette situation idéologique tendue où on ne s'écoute plus parler et où, comme le disait Orwell, dans ce climat-là, le seul fait de dire la vérité devient un acte révolutionnaire.
Ce que vous racontez aussi, c'est qu'il fait partie de ces écrivains qui ont, on peut le dire, eu raison avant tout le monde.
Oui, Orwell a vu beaucoup de choses. Ça tient aussi à son expérience. Il est né en Inde, dans l'Inde coloniale occupée par l'Angleterre. Il a occupé un petit poste dans la police britannique. Ça l'a totalement, guéri de la velléité d'occuper toute position de pouvoir et de l'idée même d'occuper, de chercher le pouvoir. Et il est revenu en France et puis en Angleterre où il a vécu un peu dans la dèche. Il a vécu la vie de clochard. Il a rencontré ça dans la dèche à Paris. Et puis après, il est parti. C'est sa grande aventure. Il est parti en Espagne avec sa femme au moment de la guerre d'Espagne pour essayer de défendre la République naissante contre le coup d'État de Franco. Et là, il a fait à la fois l'expérience d'un éblouissement, l'éblouissement de Barcelone qu'il a vu, cette ville pauvre, mais en état de révolution, où tout le monde était à l'égalité, où personne disait ne lécher les bottes à quelqu'un d'autre, et en même temps, le climat de terreur que les staliniens commençaient à faire régner sur le camp républicain. Et à partir de là, eh bien, sa conscience politique s'est forgée. Il est revenu en Angleterre après avoir été blessé sur le front d'Espagne, et là, il s'est engagé contre le nazisme à la BBC, comme journaliste engagé, où il écrivait des textes qui sont encore à relire, qui sont vraiment très très d'une grande actualité aujourd'hui. Mais ces deux chefs-d'œuvre restent La Ferme des Animaux et 1984, deux grands romans qu'il faut absolument relire si on veut un peu comprendre, se forger une conscience politique neuve.
Ce que vous racontez aussi, c'est son aptitude épicurienne et une facette du personnage d'Orwell qu'on connaît moins, mais il est parti vivre sur une île qui est une île assez désolée, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire où il n'y a pas grand-chose. Il y a des cerfs sauvages, une petite centaine d'habitants, 200 ou 300 habitants, je crois, c'est l'île de Jura en Écosse, où d'ailleurs il a écrit une partie de 1984, me semble-t-il.
Oui, tout à fait. Il a eu besoin de prendre le large par rapport à une société, à une Angleterre qui était très très politisée, où tout le monde, il y avait des camps en bataille, etc. Il a eu le sentiment qu'il devait prendre un peu de hauteur. Donc il est parti, il avait par ailleurs la tuberculose, et il est parti après la guerre, vers 1947, écrire sur l'île de Jura, où il vivait avec des moutons, où il cultivait. Il avait aussi l'idée, Orwell, c'était un socialiste anarchiste un petit peu, et il avait l'idée que c'est... les autodidactes ont quelque chose de précieux, c'est-à-dire celui qui apprend à être jardinier, celui qui apprend à cultiver des bêtes, et que c'est beaucoup mieux d'être autodidacte, apprendre par soi-même, plutôt que d'appliquer des recettes d'expertise que ceux qui sont censés, que les sachants doivent nous transmettre. Mmh. Et c'est dans cette atmosphère-là qu'il a écrit cette grande épopée 1984, qui est très intéressante parce qu'elle est à la fois, évidemment, une description d'une société totalitaire, modelée sur la société soviétique de l'époque, la société stalinienne, on n'a pas voulu le savoir, c'était pas une société du futur, c'était quand même le modèle, c'était l'Union soviétique, mais l'intrigue se passe aussi à Londres. Et il voulait dire par là, ce qui est très intéressant, c'est que les sociétés modernes, démocratiques, capitalistes, sont elles aussi parcourues par des tentations totalitaires, que ce soit la surveillance des corps, mais aussi de plus en plus aujourd'hui, on le voit, surveillance des esprits, où on anticipe aujourd'hui avec les modèles de surveillance sociale, on anticipe jusqu'au désir de chacun. Eh bien, il a eu cette intuition qu'il y avait dans la société moderne, une aspiration, un désir même de chacun à essayer d'avoir un point de vue sur les autres et à surveiller tout le monde. Et c'est cela qu'il décrit dans un roman qui plus est, qui est en réalité une histoire d'amour, une très belle histoire d'amour de Winston, dans ce climat tendu entre le communisme et cette aspiration à vivre avec les petits. Il avait l'idée que la vie ordinaire des petites gens était la ressource sur laquelle on pouvait tabler, ce qu'il appelle la décence ordinaire. Et donc, malgré sa désillusion, il n'a jamais perdu l'espoir qu'il y avait chez les petits, dans le peuple, l'idée d'une décence ordinaire. C'est là-dessus qu'il fallait retremper la possibilité du socialisme.
Et ce qui explique encore sa popularité aujourd'hui, parce que c'est un auteur qui plaît aussi bien aux personnes âgées qu'aux plus jeunes, aux gens de gauche comme aux gens de droite. Et vous rappelez cette phrase que je trouve très belle, et on va conclure là-dessus, Martin Legros, en conservant écrit Orwell, en conservant notre amour enfantin pour les arbres, les poissons, les papillons ou les crapauds, on rend un peu plus probable la possibilité d'un avenir pacifique et décent. C'est une phrase qui fait du bien, on devrait la lire tous les matins. Merci Martin Legros d'avoir été en direct avec
Merci
nous aujourd'hui.
À vous, Thomas Chevineau.
Et donc ce papier sur Orwell à retrouver sur le site de Philomag. Merci, bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
J'ai déclaré vouloir mettre la santé mentale d'abord et avant tout. Parce que si ce n'est pas la priorité, votre sport va vous déplaire et le succès ne sera pas au rendez-vous. Je pense qu'il vaut mieux se retirer de quelques compétitions, même importantes, et se recentrer sur soi. Ça montre à quel point vous êtes une compétitrice forte.
Simone Biles, c'était en juillet dernier, qui évoque son retrait de la compétition des JO et puis sa santé mentale. Bonjour Jean-Victor Blanc.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre à la PHP, auteur du livre Pop et Psy. Bonjour Cyrine Amiri.
Bonjour.
Vous êtes président de Nightlight Paris, une association d'écoute et d'entraide. Bonjour Angelo Follet.
Bonjour.
Vous êtes psychothérapeute et Sophie Cadalen, bonjour.
Bonjour.
Psychanalyste. Quatre invités donc pour parler aujourd'hui de la santé mentale. Et aussi de la santé mentale des jeunes, qui fera une partie importante, j'imagine, de l'émission. Jean-Victor Blanc, osez parler de ces problèmes-ci quand on est sportif de haut niveau, comme Simone Biles, et même considéré comme l'une des meilleures sportives de son temps. Est-ce que c'est nouveau ?
C'est tout à fait nouveau. C'est le premier moment dans, on va dire, l'histoire contemporaine où on a autant de figures médiatiques, autant de grands sportifs, autant également de célébrités, d'acteurs, de chanteurs et de chanteuses surtout, qui prennent la parole sur la santé mentale. Et ça, c'est tout à fait fascinant. Et c'est vraiment un changement de paradigme autour de la santé mentale, puisque c'est la première fois que des personnes très en vue, extrêmement suivies, et notamment sur les réseaux sociaux, parlent de la santé mentale, en parlent en leur nom propre, en parlent eux-mêmes et en parlent d'une manière apaisée et très positive. Si on compare effectivement le Simon Biles dont vous avez parlé avec ne serait-ce qu'il y a quelques années, la manière dont Marie-Jo Pérec par exemple avait été complètement lynchée et où la santé mentale était uniquement vue comme finalement un phénomène de foire, de divertissement où on lui reprochait carrément de pas être allé à cette compétition, on voit qu'on a évolué en quelques années de manière extrêmement forte et c'est très positif.
Pourquoi ?
Je pense qu'il y a une conjonction de facteurs. Le fait que de plus en plus de personnes en parlent fait que effectivement il y a un effet un peu d'entraînement. Le fait aussi que les soins en santé mentale et en psychiatrie se sont améliorés. Les traitements qu'on utilise en psychiatrie ont une trentaine, une quarantaine d'années. Donc finalement, le fait qu'aujourd'hui on puisse aller bien avec un trouble psychique, c'est aussi un facteur qui fait que les gens arrivent à en parler plus facilement.
Mais est-ce que le fait que Mariah Carey ou Kanye West, par exemple, évoquent leur bipolarité, pousse des jeunes gens, ou des gens moins jeunes d'ailleurs, à pousser la porte de votre cabinet, par exemple, Sophie Cadalen? Est-ce que quelqu'un est venu vous dire, voilà, j'ose venir parce que j'ai entendu qu'une athlète de haut niveau ou un chanteur, un rappeur très connu avait aussi déclaré ses problèmes de santé mentale?
Alors en tout cas, la question se pose effectivement autrement. Ça va être, tiens, et pourquoi est-ce que moi je n'aurais pas aussi ce symptôme-là, cette pathologie-là? Ce qui donne aussi des effets un peu suspects, comme une propension, une aspiration à se définir quelque part, dans forcément un trouble, comme si on avait tous à être étiquetés, ce contre quoi aussi on lutte quand on est soignant. Voilà, il ne s'agit pas d'être forcément malade, il s'agit de reconnaître une souffrance qui n'est pas forcément une maladie, qui n'est pas forcément une pathologie. Mais ce gap est intéressant, qui est, je dirais, comblé aujourd'hui entre cette idée de santé mentale, mais un peu comme dire un peu lointaine, ça concernait où le bas peuple, pourrais-je dire, mais il y avait cette idée comme ça des surhommes, les sportifs par excellence, les vedettes, les stars, ils étaient ailleurs. Donc c'est ça qui est intéressant. On savait intellectuellement que la santé mentale, ça concerne absolument tout le monde, c'est même le moteur essentiel pour arriver où que ce soit, au succès évidemment, dans des championnats incontournablement, mais comme si voilà, on n'osait pas encore faire ce lien entre la réalité de ces champions et puis leur humanité tout simplement.
Et pourtant, ils sont nombreux, les sportifs de haut niveau, à être victimes de troubles mentaux. Alors, à des échelles variées, évidemment, mais une étude disait qu'il c'était autour des 30%, voire 35%.
Effectivement, on sait que dans le milieu, tout ce qui va être milieu créatif, et les sportifs en font partie, mais aussi c'est vrai qu'on en a beaucoup plus parlé de le monde de la musique ou du cinéma, on sait qu'il y a un certain nombre de personnes atteintes de troubles psychiques. Finalement, quand on est soignant, on se rend compte que c'est pas tellement surprenant. La santé mentale, ça concerne une personne sur quatre à un trouble psychique dans le monde. Donc finalement, que parmi les idoles et parmi les gens très suivis, et finalement beaucoup de personnes qui en parlent, c'est pas uniquement un phénomène qu'on pourrait qualifié de marketing ou de récupération commerciale. C'est finalement le reflet de l'importance des troubles psychiques dans notre société. Ce qui est nouveau, effectivement, c'est qu'ils en parlent.
Angelo Follet, est-ce que vous avez des patients qui viennent vous voir, qui prennent contact avec vous parce que, justement, ils ont pu entendre un de leurs idoles, ou pas forcément idoles, mais en tout cas une personnalité, parler de ces problèmes de santé mentale?
Oui, je crois que je dirais la chose positive qu'il y a dans effectivement le fait de voir de plus en plus de personnes publiques s'exprimer sur leur santé mentale permet à ces jeunes gens, en tout cas les personnes qui viennent me consulter, de déjà de s'identifier d'une autre manière, c'est-à-dire vraiment de voir que la personne finalement qu'elles admirent, elle est humaine et qu'elle a aussi ses propres souffrances, ses propres douleurs, ses propres difficultés. Après, effectivement, je rejoins, je sais plus le prénom, je crois que c'est Maria. Je rejoins en tout cas cette idée-là que il peut y avoir aussi une identification tellement forte que.
On a parlé de Mariah Carey, alors je savais pas de quelle Mariah vous parlez. Sophie Cadalen, qui est psychanalyste.
Je sais pas pourquoi j'ai dit Maria.
Pardon, c'est un lapsus que peut-être Sophie Cadalen pourra vous expliquer, mais on fera ça hors antenne si vous voulez bien.
Peut-être que. Il y a une carrière à faire dans la chanson, peut-être. En tout cas, je rejoins ce discours-là dans la mesure où il peut y avoir aussi une forme d'autodiagnostic un étiquetage qui fait que certaines personnes vont arriver avec déjà toute une liste de symptômes et puis de diagnostics qui fait que peut-être que la première étape, ça va être de voir qu'on peut avoir un peu de souplesse dans ce diagnostic qui parfois est très... finalement violents envers eux-mêmes déjà ça peut être une première étape de soulagement de voir que finalement il n'y a pas quelque chose de pathologique et que ça va être possible pour la personne de le gérer. Mais en tout cas voilà, pour répondre à votre question, il y a une identification qui est intéressante pour au moins avoir quelqu'un d'autre que soi pour mettre des mots sur quelque chose dans lequel on se reconnaît, qui peut faire effectivement passer la porte d'un cabinet ou d'un travail thérapeutique.
Ou de prendre son téléphone et d'appeler une plateforme d'écoute comme la vôtre, Cyrine Amiri. Vous êtes présidente de Natlight Paris, donc une plateforme d'écoute. Qui vous appelle? Est-ce qu'il y a un profil?
Non, pas forcément. Enfin, le seul profil, c'est étudiant, parce que c'est un service d'écoute fait par des étudiants pour des étudiants. Mais à part le fait qu'ils sont étudiants, il y a vraiment de tout. Parce que l'idée, c'est de pouvoir prendre son téléphone ou même son ordi, parce qu'il y a aussi le chat, et de discuter, d'avoir quelqu'un en fait avec qui on pourra vider son sac, une épaule sur laquelle on pourra s'appuyer et on peut parler de tout. Donc parfois il y a des gens qui vont juste nous raconter ce qu'ils ont pensé du dernier film qu'ils sont allés voir au cinéma, et puis il y en a d'autres qui vont nous parler de leurs problèmes relationnels, du stress qu'ils ont par rapport au cours, etc. C'est vraiment très large.
Et comment vous faites le tri, parce que bon, quand on vient de raconter l'histoire, le dernier film qu'on a vu au cinéma, c'est une chose, mais les problèmes plus graves, plus conséquents, qui peuvent là devenir importants, vous avez une formation ?
Alors, on est formé, mais je tiens quand même à dire qu'on ne fait pas du tout de tri. C'est-à-dire qu'on prend ce qui vient et on essaye de prendre tous les appels.
Mais vous pouvez orienter ensuite.
Alors, en fait, on oriente à la demande de la personne, mais on n'est pas du tout des soignants, on n'est pas du tout professionnel à ce niveau-là. Donc, on ne va pas faire de diagnostic, on ne va pas du tout dire « Oh, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça ». Au contraire, on est vraiment dans l'écoute active et dans l'accompagnement, dans le soutien. Et on ne va pas du tout donner de conseils. Par contre, si la personne nous demande où se diriger, comment y aller, on va l'aider. Et d'ailleurs, on a mis en place un annuaire sur notre site internet où, en rentrant nos informations, ça nous dit où est-ce qu'on peut aller voir des psys gratuitement.
Ça fait 4 ans que cette association existe. Est-ce que vous avez la sensation qu'aujourd'hui, la parole s'est plus libérée que quand vous avez commencé il y a 4 ans?
Le nombre d'appels augmente. Et plus ça va, plus il y a de la demande, que ce soit pour ouvrir des antennes dans d'autres villes en France, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aider sur ce sujet-là, ou parce que justement les appels augmentent, donc c'est-à-dire que les gens sont au courant, les gens osent prendre leur téléphone, osent sortir leur ordinateur. Et je pense qu'effectivement, c'est parce qu'il y a une déstigmatisation du sujet de la santé mentale.
Alors, je le disais en préambule, à peu près 24 millions d'occurrences dépression avec le hashtag dépression sur Instagram. Et les réseaux sociaux, dès qu'on tape ce mot, comme dès qu'on tape le mot suicide, mettent tout de suite une mise en garde. Avez-vous besoin de parler à un ami? Avez-vous besoin de parler, d'être mis en contact avec des spécialistes? C'est assez récent et c'est important, j'imagine, Jean-Victor Blanc.
Effectivement, c'est très important parce que, bien sûr, il faut en parler, mais il faut savoir que ça peut aussi être fragilisant pour certaines personnes. Et c'est vrai qu'on le sait, notamment pour tout ce qui est passage à l'acte suicidaire, il peut y avoir un effet de contagion. On l'a vu notamment avec un certain nombre de suicides de célébrités, de Marilyn Monroe à Kurt Cobain, où il y a eu une augmentation du nombre de suicides. On l'a vu aussi d'ailleurs avec des séries plus récentes comme Certain Reason Why, dont vous parliez en introduction. Donc c'est sûr qu'il faut en parler, mais
c'est une série justement consacrée au suicide d'une adolescente, et on comprend pourquoi au fur et à mesure.
Exactement. Et donc c'est sûr qu'il faut en parler, mais il faut que derrière il y ait aussi justement une écoute et que ça puisse déboucher sur des soins. Parce que bien évidemment, pour reprendre la question initiale, c'est vrai que c'est pas juste un people qui va pas de la santé mentale qui va faire que quelqu'un consulte. Je pense que c'est vraiment un ensemble d'éléments, mais que le fait que justement ce soit possible et que ça puisse faire son chemin, c'est sûr que c'est un élément qui peut aider.
En tout cas, que ces personnalités médiatiques le déclarent plus publiquement, est-ce que c'est le signe, Sophie Cadalen, qu'on se cache moins, disons ?
Oui, alors effectivement ça participe, je dirais, d'une époque, de possibilités aujourd'hui, ça fait quelque temps maintenant que la psy vraiment est au cœur de nos vies, nos sociétés, de nos réflexions, qu'elle se banalise même quelquefois, voilà, cellule de crise par exemple, ce mot qu'on entend dès qu'il y a un événement, une catastrophe, c'est devenu tout à fait banal, ordinaire, incontournable je dirais même. Mais je crois que profondément, ça vient interroger, et c'est peut-être là que c'est un petit peu plus dérangeant, qu'est-ce que c'est la santé mentale, en fait ? Qu'il y ait des vedettes, des sportifs qu'on considérait comme des demi-dieux, voilà, ils sont extraordinaires, c'est-à-dire qu'ils sortent de notre ordinaire.
Avec un mental d'acier, donc indestructible.
Avec un mental d'acier. Mais voilà, il y a des grands créateurs qui surfent sur une hypersensibilité, sur des fragilités, sur ce qu'on pourrait appeler des névroses, mais qu'ils ont transformé en création, des sportifs aussi, qu'est-ce qui les motive ? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils s'infligent tout ce qu'ils s'infligent ? Parce qu'on sait que c'est pas si joyeux que ça, la vie d'un sportif. En tout cas, c'est une sacrée lutte. En tout cas, ça vient questionner, mais qu'est-ce que c'est être en bonne santé mentale ?
Est-ce que vous sous-entendez que c'est devenu une sorte de fourre-tout ?
En tout cas, il me semble que il y a ce côté fourre-tout, mais en même temps, cette répugnance encore à questionner, mais qu'est-ce que ce serait être en bonne santé ? La norme, c'est quelque chose de très difficile à déranger, à déloger. Et on a tous, c'est pour ça que vous parliez effectivement de cette espèce de propagation, on parle de suicide, hop, et quelques-uns qui s'engouffrent derrière ce terme, et hélas, derrière l'acte. On veut savoir où on est, on veut savoir où on se situe, on veut savoir, voilà, on veut être, s'il le faut, bipolaire, plutôt que de ne pas savoir qui on est, plutôt que de ne pas avoir de définition. Donc, c'est ça qui serait intéressant aujourd'hui, c'est cette santé mentale, elle est là, elle est au cœur de tout, la pandémie a évidemment encore accentué ça. qu'est-ce que c'est la bonne santé mentale? Qu'est-ce que c'est être humain, au fond?
Je vous pose la question, Jean-Victor Blanc, autant on sait que quand on est malade, on a de la fièvre, on a des ganglions, quand on a un problème de santé mentale, c'est beaucoup plus difficile à discerner.
Bien sûr, c'est une excellente question. Alors si on prend la définition de l'OMS, la santé c'est un bien-être complet, psychique, social et physique. Donc c'est sûr que c'est une définition qui est vaste et qui est très très ambitieuse. Donc si on l'applique à la sphère de la santé mentale, il faut bien voir qu'il y a en fait un continuum qui va des troubles psychiques, donc qui sont les maladies de l'esprit, à la santé mentale, où là on est plus sur finalement des émotions et finalement quelque chose de plus universel. Ce qui est important, et moi ce que j'essaie vraiment de faire à travers le livre, à travers les conférences, c'est de bien définir justement ce que sont les troubles psychiques. À partir du moment où on a la définition justement d'un trouble bipolaire, avec ses variations d'humeur à la hausse et à la baisse, et que finalement on voit de quoi on parle au niveau médical, déjà il y a moins de, on va dire, mésusages, et il y a moins de gens qui vont forcément s'attribuer un diagnostic à tort et à travers. L'autre chose qui est essentielle, c'est que bien évidemment, si les célébrités peuvent favoriser l'accès aux soins, ensuite il y a une démarche médicale. Poser un diagnostic, c'est une démarche médicale. Et là, pour le coup, peu importe pourquoi vient la personne, on fait un peu le tri et justement, on explicite, oui, ça ressemble à ce que vous pensez être le trouble bipolaire. Ça, par contre, ça ne l'est pas du tout. Et finalement, c'est pas différent de quelqu'un qui va consulter sur Google, j'ai de la fièvre, et qui va arriver en disant, je pense avoir un lymphome. Et en fait, on lui dit, non, c'est une angine et c'est tout finalement, et c'est tout, et après on l'explicite, mais c'est sûr qu'il y a vraiment cette nécessité d'être assez carré justement sur savoir de quoi on parle.
La santé mentale à l'heure d'internet, c'est le thème aujourd'hui dans le débat de midi. On attend toujours vos commentaires, vos réactions sur le site de France Inter. Et bel été à vous, nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
histoire. Malgré tout ce que j'ai pu croire, je suis content de faire partie de nous.
Il s'appelle Jacques, il vient de Strasbourg. Et vous, c'est le titre de sa chanson, il est midi 28.
Le débat de midi, à retrouver pendant tout l'été à midi sur France Inter et en podcast sur franceinter.fr.
Quatre invités aujourd'hui pour parler de la santé mentale. Cyrine Amiri, qui est présidente d'une plateforme d'écoute, Nightlight Paris. Jean-Victor Blanc, qui est psychiatre. Angelo Follet, psychothérapeute. Et Sophie Cadalen, psychanalyste. Et puis ces messages qui nous arrivent. Aurélien nous dit « Les réseaux sociaux m'ont aidé à trouver des personnes avec des vécus similaires aux miens, même s'ils peuvent être anxiogènes à long terme. Ils sont une ouverture aux autres. » Et Aurélie dit tout le contraire. « Je souffre de dépression et j'ai fini par supprimer tous mes réseaux sociaux car ils génèrent chez moi de l'anxiété. » Même lorsque je les utilise pour me documenter, le bénéfice est moins élevé que les inconvénients. Angelo Follet, vous qui êtes psychothérapeute, mais aussi instagrammeur, quel rapport vous entretenez avec ces réseaux sociaux ?
Ouais, je crois que les deux témoignages parlent vraiment de ce paradoxe des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'évidemment, chaque personne, chaque public a le choix de consulter ou non, et puis du contenu qu'il ou elle va consulter. Évidemment, moi, ma pratique se fait complètement en dehors des réseaux sociaux, c'est-à-dire que je ne fais pas de thérapie sur les réseaux sociaux. Faut bien rappeler ça, c'est qu'une thérapie, il y a vraiment un cadre spécifique et puis une expertise spécifique. Moi, le rapport que j'ai, c'est que en fait, je ne fais que recevoir finalement des témoignages de gens qui vont parler de leurs angoisses, de leurs peurs, de leur anxiété, de leurs souffrances, de leurs difficultés relationnelles, de leur sexualité, etc. Et je questionne en fait. Je questionne. J'essaie de créer un espace dans lequel des questions que les personnes dans leur quotidien ne se posent pas forcément, moi, vont permettre d'ouvrir un autre angle. Et j'aime beaucoup la dernière phrase de la chanson de Jacques qui dit justement, malgré tout ce que j'ai pu croire, il y a des choses qui sont bien, ou je sais plus exactement quelles sont les paroles. Je crois que c'est ça un petit peu le travail au niveau de la santé mentale, c'est aussi de travailler, accompagner quelqu'un à peut-être ouvrir des espaces pour percevoir sa vie et puis elle-même d'une autre manière, quoi.
Et donc, le réseau social, quel qu'il soit, n'est qu'un outil alors finalement pour vous?
Oui, pour moi, c'est ce que je dis souvent, c'est une coquille vide, c'est-à-dire qu'après, on fait ce qu'on veut dedans, c'est un outil, donc tout dépend de la manière dont on l'utilise. Je reçois autant de témoignages de gens qui me disent « c'est anxiogène pour moi de voir autant de gens souffrir », parce que je reposte les témoignages », et en même temps, des gens qui disent « ça me fait du bien de l'avoir exprimé et déjà de l'avoir écrit », ou d'autres témoignages encore qui disent « ça me fait du bien d'avoir des regards différents » ou encore de me reconnaître chez certaines personnes. C'est vrai que c'est pas comme ça que je l'aurais perçu au départ. Donc en fait, vraiment, c'est un outil qui va permettre à chacun d'y mettre ce qu'il veut dedans, quoi.
Cyrine Amiri, comment est née votre plateforme d'écoute pour les étudiants ?
C'est quand Patrick Skian, maintenant qui est directeur général de l'association, il était étudiant il y a 4 ans, et quand il est arrivé en France, donc il était irlandais, et s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait rien pour les étudiants à ce niveau-là, et en Irlande, ça faisait des années qu'une nightline existait, donc un service d'écoute pour les étudiants. Du coup, il l'a créé parce que ça en manquait cruellement et vu qu'on a plein d'appels, ça prouve qu'il a eu raison.
Vous avez fait une petite étude que vous aviez publiée en novembre dernier et vous avez comptabilisé le nombre de psychologues qu'il y a en France versus le nombre de psychologues qui existent à dispo des étudiants aux États-Unis. C'est 1 psychologue pour 30 000 étudiants en France, un psychologue pour 1 500 étudiants aux États-Unis.
C'est ça. Et donc du coup, c'est des équivalents temps plein, parce qu'il n'y a pas forcément tout le temps, mais oui.
Donc vous considérez qu'il n'y en a pas assez ?
Il n'y en a pas assez, effectivement. C'est 20 fois moins que les recommandations internationales. Alors après, là, ça a augmenté récemment avec les mesures du gouvernement, mais c'est que pour cette année, donc il faut regarder de façon plus pérenne et dans le long terme.
Sophie Cadalen.
Oui, on avait jusqu'à peut-être ce Covid une vision des étudiants de la jeunesse, mais totalement, aplatie. Ils sont jeunes, donc ils vont bien. oui, oh ben, ils n'ont pas d'argent, on est tous passés par là. Enfin, des choses terribles. Souvent, d'ailleurs, un refus de les écouter, tout simplement, ces jeunes-là, voilà, dans ce qu'ils ont à dire, dans ce qu'ils vivent, dans ce qui fait mal, dans ce qui souffre. Comme si, voilà, c'était une espèce de, d'étape, de toute façon, incontournable, formidable, forcément formidable. Alors que je pense que si on interroge nos 20 ans, on n'y retourne pas forcément tous. Enfin, moi, j'y retourne pas, personnellement. Donc, si au moins quelque chose a bougé ces derniers mois, c'est ça, c'est de réaliser qu'il y a, il y a une vraie population active. Elle n'est pas active au sens d'avoir des fiches de salaire, mais elle est active dans une vie qu'elle commence, qu'elle démarre. Et puis surtout, totalement démunis. Enfin, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'aide, ils n'ont pas de secours, ils n'ont même pas le droit d'aller mal. Ils sont jeunes, alors maintenant, voilà, maintenant ça commence, et il était temps, oui, grand temps.
Jean-Victor Blanc.
Effectivement, c'est sûr que là, c'est aussi la force des réseaux sociaux, c'est que ça a permis à toute cette jeunesse finalement de s'exprimer, de trouver des pairs et de créer des communautés, même si ça reste, et notamment en France, encore assez mal vu, le fait de se regrouper avec des semblables, et même si c'est juste, et en l'occurrence des personnes jeunes ou des personnes étudiantes ou des personnes qui vont mal, pourtant c'est une vraie force pour eux et un vrai soutien qu'on constate. C'est vrai que ça a été, l'acmé a peut-être été atteint pendant le confinement, ou pour le coup c'était un des seuls moyens de socialisation pour toute une frange de la population. C'est là qu'on a vu la force aussi de ces réseaux sociaux, même s'il ne s'agit pas bien sûr d'être complètement angélique, parce qu'il y a aussi des effets secondaires et on pourra en parler, mais il y a quand même cette force-là et je pense que ça a été un peu le détonateur. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir qu'il y a un parallèle entre finalement le fait que tous les jeunes aujourd'hui peuvent s'exprimer sur les réseaux sociaux et que ça permet une libération de la parole, mais c'est un peu la même chose finalement si on regarde encore une fois les idoles, les stars, etc. À une époque où tout était extrêmement verrouillé, ils ne pouvaient pas s'exprimer. Et si on regarde l'histoire, par exemple, de Britney Spears, qui n'avait aucun accès à cette parole, ne pouvait pas dire justement quand elle allait mal, etc. On a vu comment ça s'est passé. Et finalement, aujourd'hui, il y a une espèce de rattrape un peu les wagons, puisqu'elle a enfin accès à justement, en l'occurrence, son compte Instagram pour pouvoir s'exprimer. Donc, je trouve que c'est, cette question de pop culture, elle est toujours pertinente pour interroger ça.
Parler des réseaux sociaux, alors on imagine bien, ça peut soulager, comme nous disent les auditeurs de France Inter, mais c'est pas en communiquant sur les réseaux sociaux qu'on va aller mieux.
Alors, c'est pas en communiquant sur les réseaux qu'on va aller mieux, mais par contre, en pouvant partager son expérience et puis en pouvant aussi s'instruire des expériences des autres et notamment des parcours de rétablissement. Quelqu'un qui va dire, bah, moi, il y a un an, j'avais des idées suicidaires, je pensais que ma vie était finie, j'étais dans une situation compliquée, précaire, étudiante ou pas d'ailleurs, et finalement, j'ai réussi à trouver les ressources et aujourd'hui, ça va mieux. C'est des récits qui sont extrêmement structurés. Et pour le coup, dont on sait, des études ont montré qu'ils permettent de diminuer la détresse suicidaire, par exemple.
Angelo Follet.
Oui, bah c'est vrai que c'est ce que je disais, c'est qu'il peut y avoir effectivement beaucoup de, moi dans mon expérience, de témoignages de personnes qui se sentent soulagées. En tout cas, évidemment que ça, ce n'est pas une thérapie et que ça ne soigne pas si effectivement il y a de la pathologie. Mais le fait de effectivement, comme disait Jean-Victor Blanc, de se relier, de se reconnaître, de s'identifier, que ce soit des stars ou pas des stars, de voir effectivement des parcours atypiques ou des parcours de résilience ou de guérison ou d'amélioration, c'est toujours inspirant pour ces personnes-là. Après, effectivement, les réseaux sociaux, et surtout si on parle d'Instagram, sont très très limités, ne serait-ce que parce que c'est un média sur lequel finalement on ne peut pas tant s'exprimer que ça, ou être en relation directe, c'est-à-dire que ça passe par un format écrit dont le contenu est très très limité, ou une image. Moi, je pense que ça peut être un pont, ça peut être quelque chose qui fait un pont avec effectivement un travail qui peut être plus approfondi, soit plus individuel, soit plus collectif. Je sais que moi, je travaille aussi beaucoup en groupe, et ce que je fais moi, par exemple, c'est que les choses qui émergent, les sujets qui émergent, dans lesquels les gens peuvent se reconnaître sur le compte, en général, j'ouvre des espaces de parole sur lesquels on va se retrouver en ligne, par exemple sur Zoom, parce que c'est ce que j'avais développé pendant le confinement. Et là, effectivement, il y a une autre dimension, c'est-à-dire que là, on rentre en relation, le jeu de miroir se fait, et puis surtout, il y a une parole qui est orale, qui est non-verbale aussi, on se voit. Et pour moi, elle est là la clé, en fait. Elle est vraiment dans ce qui va se passer dans l'expérience, dans la relation. Et pour moi, la santé mentale englobe aussi cet aspect relationnel, physique, émotionnel, corporel de l'être humain en général, quoi.
Sophie Cadalen, puis Cyrine Amiri.
Oui, alors évidemment, s'exprimer seulement sur les réseaux sociaux ne va pas être la panacée ni la solution miracle. Mais une chose que l'on sait tous, c'est que ne pas s'exprimer du tout, c'est pire. Le pire. Mmh. Voilà. Donc c'est effectivement, comme votre interlocuteur vient de le dire, c'est déjà une première marche. C'est déjà une possibilité, une porte qu'on en trouve. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Ça appartient à chacun. On sait évidemment que les réseaux sociaux, mais comme dans la vie, c'est finalement la vie augmentée, les réseaux sociaux. Ça peut aussi servir à justement, finalement, s'exposer avec un peu de complaisance, avec une espèce de satisfaction, sans que rien ne change. Mais c'est ce qu'on vit tous. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait de nos souffrances? Est-ce qu'on entame un dérangement? Ou est-ce qu'on s'y fait une petite place qui peut être un peu confortable, même si le terme peut sembler étrange? Voilà. Ça nous appartient.
Thierry Namiri.
Je rebondis sur tout ce qu'ils ont dit parce que je suis très d'accord, mais c'est aussi que je pense que la communication, ça permet de franchir le pas. Évidemment, ça va pas soigner une pathologie, mais c'est de la prévention en fait. Et si on fait le parallèle santé mentale, santé physique, autant si on a un bobo qu'on peut pas régler tout seul, on va chez le médecin. En santé mentale, c'est pareil. S'il y a un bobo ou une maladie qu'on ne peut pas régler tout seul, on va chez le psy, quel qu'il soit, psychanalyse, etc. Pour autant, on peut faire de la prévention, pour autant, on peut avoir une sorte d'hygiène psychique. Et pour moi, parler de santé mentale, c'est déjà en prendre soin de la sienne et de celle des autres, parce que on va s'entraider, on va se dire qu'on n'est pas tout seul. Et c'est ça qui peut nous permettre de faire un plus grand pas ensuite et d'aller consulter s'il faut.
Sur franceinter.fr, Anne-Cécile nous écrit « Je recommande chaudement la série Crazy Ex-Girlfriend sur Netflix. En 3 saisons, le sujet de la santé mentale, de ses conséquences, des soins qui existent sont abordés de manière accessible, souvent drôle, toujours musicale. La série m'a beaucoup aidé à faire comprendre à mon entourage ce que je vivais et à me sentir moins seul. Quand la pop culture aide, pourquoi s'en priver ?» C'est vrai que y a eu le succès de En Thérapie, par exemple. Comment vous l'expliquez, vous, Sophie Cadalen, ce succès de cette série En Thérapie, de ces séries qui parlent de votre métier, là, en l'occurrence, la psychanalyse?
D'abord, je trouvais qu'elle était extrêmement bien jouée.
Oui.
Donc, je crois que ça participe au succès, parce que c'est assez extraordinaire, voilà, de tenir le temps d'une séance.
Ce que je veux dire, c'est qu'avant, les séries, c'était Starsky et Hutch, avec des policiers qui se courent après, au volant de voiture, qui se castagnent. Et là, vous avez un psy assis dans un fauteuil, son patient allongé sur le divan, et ça fait une série.
Oui.
Et un succès.
Parce que je crois qu'il y a aussi, en tout cas pour ceux qui s'y intéressent, et finalement beaucoup de gens aujourd'hui s'y intéressent, mais qu'est-ce qui se passe en thérapie justement? Qu'est-ce qui se passe dans le huis clos d'un cabinet, d'une séance? Alors évidemment, en thérapie, c'était quand même du feuilleton, c'était comme des épisodes de la série, plutôt feuilleton, ça fait un peu vieille, c'était quand même de la série. Donc c'était très condensé. J'avais des patients très complexés en regardant en thérapie, mais moi-même, je disais, ah non, mais je ne parle pas aussi bien que lui. Et les patients me disaient, mais je ne vais pas aussi vite. Ah mais non, mais voilà, ça, une séance finalement regroupée des semaines, des mois, quelquefois même des années. Mais oui, on a tous la curiosité. Comment on fonctionne, au fond? Quels sont ses ressorts? Et c'était pas mal fait, parce que ça parlait d'inconscient, ça parlait d'actes manqués, ça parlait de tâches chaudes. Mais voilà, en très concentré, en très efficace, on est quand même à la télé.
Jean-Victor Blanc.
Effectivement, ces séries, ces films, ils sont extrêmement inspirants. Nous, à l'hôpital Saint-Antoine, on utilise justement des films, par exemple, avec des personnages qui ont un trouble bipolaire, dans un programme de psychoéducation sur la maladie. Donc on va au cours d'une des séances du cycle, par exemple, regarder Happiness Therapy, et ensuite on décortique, les patients s'identifient sur certains aspects, moins sur d'autres, etc. Et c'est un bon médium pour justement en parler, donner une autre image. C'est sûr que c'est l'autre versant fascinant de la pop culture. On a beaucoup parlé des célébrités, mais aussi de la création artistique. C'est vrai qu'on n'a jamais eu autant d'œuvres grand public, d'œuvres à succès et d'œuvres très différentes. Ça peut aller d'un film comme Mélancolia de Lars von Trier à un film Oscar comme Happiness Therapy ou effectivement En Thérapie ou encore Euphoria, une série américaine extrêmement inventive et assez révolutionnaire sur la manière dont elle montre justement les thématiques de santé mentale des adolescents. C'est sûr que c'est autant de je trouve que c'est autant de manières de parler, autant de décomplexer et autant de manières aussi de faire de la pédagogie autour de la santé mentale.
Mais ça signifie que la série ne fait pas que libérer la parole. Vous vous en servez comme d'un soin presque.
Bien sûr, exactement. Alors c'est sûr que c'est dans un arsenal de soins, mais on peut s'en servir comme un soin. Et je pense qu'il y a aussi un effet qui est encore plus intéressant, qui est un peu de l'ordre du constructivisme social, où en fait, en voyant quelqu'un qui a un trouble bipolaire et qui va bien, ça permet aussi de se dire, si jamais je dois embaucher quelqu'un qui a un trouble bipolaire, ou si j'ai quelqu'un qui a un trouble bipolaire dans ma famille, et peut-être qu'il ira bien. Peut-être que finalement, ce sera pas le fou comme on l'a longtemps extrêmement stigmatisé, sans aucun espoir, et en se disant, ça suscite une réaction de rejet.
Sophie Cadalen.
Oui, et c'est peut-être aussi le pendant, en tout cas cet appétit que nous avons pour ces séries, pour ces histoires-là, pour ces mal-êtres-là, racontées de façon souvent très, très, finalement joyeuse, intéressante. C'est aussi cette pression que l'on a, enfin très augmentée depuis quelque temps, alors peut-être justement c'est le contrepoint, de devoir aller bien, d'être heureux à tout prix, que les réseaux aussi ont augmenté, mais c'est une propension là encore une fois, ça fait partie de nos codes, notre culture, de notre demande les uns les autres de se montrer voilà, vaillant et assurant comme on dit, mais c'est trop, voilà, y a, je crois ces deux mouvements, c'est aller bien à tout prix, alors éventuellement avec des tas de thérapies très souples, très soft, pas trop invasives, pas trop intérieures. Et puis justement cet autre pan où on va dire « Ah non, mais c'est pas si simple que ça, on est très compliqués nous les humains ».
Est-ce qu'il n'y a pas le danger de la vulgarisation justement, Angelo Follet, à force de voir toutes ces séries qui parlent de psychanalyse, on peut, ou psychothérapeute ou psychiatre, hein, pour prendre l'ensemble des psys en général, on peut tous devenir psy finalement, comme quand il y a la Coupe du Monde de football, tout le monde devient entraîneur, sélectionneur de l'équipe de France.
Je pense que la vulgarisation par la pop culture, elle est intrinsèque, c'est-à-dire que effectivement, ça peut, si ça inspire des personnes à vouloir effectivement, pourquoi pas, se lancer dans une carrière, dans une formation d'accompagnement quel qu'il soit, je trouve ça super. Après, je pense que ça fait appel aussi à vraiment à notre intelligence et notre libre arbitre, c'est-à-dire que ça a été rappelé très souvent là dans les discours des différents intervenants, c'est que ça reste parfois faut se rendre compte que ça reste de la fiction, l'écueil effectivement de la thérapie, c'était que c'était à la fois très réaliste parce que très bien joué et très bien documenté et en même temps irréaliste dans la mesure où effectivement le temps était vraiment condensé. Je pense qu'il y a la prise de recul, que ce soit des séries, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit n'importe quoi finalement mais qui fait partie de la pop culture, je pense qu'elle appelle à son propre libre arbitre, à faire des distinctions, à discerner voilà ce qui est finalement réaliste ou pas, ce qui est faisable ou pas, ce que j'ai envie ou ce dont j'ai besoin ou pas. Moi je m'efforce en tout cas dans mes communications de vraiment rappeler que les choses voilà ne doivent pas être prises pour acquis ou comme une vérité, que ça reste des points de vue, ça reste une interprétation. En revanche, la pop culture pour moi elle a un rôle essentiel dans la stimulation de la créativité, la stimulation du cerveau droit, la stimulation de finalement comment on crée du neuf avec ce qui existe déjà. Pour moi, ça fait partie des traitements, ou en tout cas de la thérapie, que de réhabiliter la créativité, de réhabiliter notre capacité à changer de point de vue, à changer de perception, et donc à mettre du neuf dans des boucles ou des schémas qui pourraient être répétitifs et du coup pathologiques.
Jean-Victor Blanc.
Oui, puis je pense qu'il faut pas non plus s'y tromper sur cet effet un peu qui pourrait y avoir de contagion en se disant c'est génial, Simone Biles parle de la santé mentale, Mariah Carey bipolaire, ça suscite des envies. Il faut quand même rappeler que c'est des pathologies qui restent encore aujourd'hui extrêmement stigmatisées, qui sont quasiment indicibles, notamment dans le milieu du travail. Moi, la plupart de mes patients ne peuvent pas dire sur le lieu de travail qu'ils ont un trouble ou qu'ils ont été hospitalisés en psychiatrie parce que tout de suite on imaginerait des images archaïques comme vol au-dessus d'un nid de coucou, alors que c'est vraiment des personnes où justement, c'est tout l'ambivalence. Personne de leur entourage ne pourrait penser qu'ils ont été hospitalisés pendant des semaines en psychiatrie. Donc c'est quand même ça la réalité. Je pense qu'il faut pas non plus. Enfin, on est loin de se dire que ce serait extrêmement facile, que ça deviendra même désirable. Et ce qu'on constate aussi, c'est que la plupart des exemples dont on a cité sont quand même des exemples américains. En France, on a encore cette culture, on va dire, du secret ou en tout cas cette gêne à parler de la santé mentale. Donc on n'en est pas à se dire panique, tout le monde veut devenir bipolaire. C'est devenir le nouveau chic, quoi, je pense.
D'ailleurs, il y a un récent sondage du Centre National des Ressources et de Résilience qui avait interviewé quasiment 30 000 étudiants qui souffrent tous d'au moins un trouble de la santé mentale. Sur ces 30 000 étudiants, seuls 12% ont poussé la porte d'un spécialiste, d'un professionnel de santé, Cyrine Amiri.
Oui, tout à fait. En fait, c'est comme si c'était hyper difficile de parler, j'ai envie de dire, à des adultes. Alors, effectivement, quand on est étudiant, on est aussi adulte, mais il y a quand même cette vision de l'adulte un peu autoritaire, qui est plus adulte que nous, entre guillemets. Et je pense que c'est pour ça aussi que, ça peut passer par les réseaux sociaux, mais ça peut passer par plein de choses, par Nightline par exemple, se rapprocher en fait des personnes, ça fait partie de la déstigmatisation. Et par exemple, le soutien par les pairs fait partie aussi de ça. C'est comme donner du courage pour passer la porte et aussi désacraliser, un peu comme en thérapie, comme vous disiez tout à l'heure, Sophie, désacraliser ce qui se passe dans ce huis clos. Parce que forcément, on n'a pas envie de passer la porte de quelque chose qui paraît effrayant ou qui a toujours été dépeint comme ça.
L'écran peut-il remplacer le divan? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Comment les réseaux sociaux modifient le rapport à la santé mentale? On attend toujours vos réactions, vos commentaires sur le site ou l'appli. Vous êtes bien sur France Inter et il est midi 48.
When winter comes and food is scarce, stay indoors. When summer's gone, we'll fly away and find the sun when winter comes. Must fix the fence by the acre plot. Two young foxes have been nosing around. The lambs and the chickens won't feel safe until it's done. I must dig a drain by the carrot patch. The whole crop spoils if it gets too damp. And where will we be with an empty store when winter comes? When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. When summer's gone, we'll fly. I must find the time to plant some trees in the meadow where the river flows. In time to come, they'll make a shade for some poor soul. When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. When summer's gone, comes and find the sun when winter comes.
On aimerait bien que l'été arrive avant l'hiver quand même. When Winter Comes de Paul McCartney qui s'adjoint les services du batteur Anderson .Paak. La playlist, vous la retrouverez sur le site de l'émission.
Le débat de midi sur France Inter.
Quatre invités aujourd'hui dans le débat de midi pour s'intéresser à la santé mentale. Jean-Victor Blanc qui est psychiatre, Cyrine Amiri qui est présidente d'une association d'écoute, Angelo Follet psychothérapeute et Sophie Cadalen qui est psychanalyste. On avait commencé à le dire avant le disque, mais c'est difficile d'en parler. Vous nous l'avez dit, Cyrine Amiri, et il y a un sondage dont je voulais vous faire part. Celui mené par la plateforme CARE, qui est une plateforme de téléconsultation en ligne, qui disait 87% des personnes interrogées n'osaient pas parler de leurs problèmes de santé mentale avec leur famille. Jean-Victor Blanc, reste un tabou énorme.
Ça reste un tabou énorme et souvent ce qu'on constate, moi je fais beaucoup de gardes à l'hôpital, c'est vrai que les situations arrivent à un moment où elles sont déjà extrêmement compliquées, il y a eu énormément d'attentes, il y a eu parfois justement une pathologie qui s'est décompensée, qui s'est aggravée et qu'on arrive en situation de crise et comme pour toute maladie, plus on arrive au moment de la crise et plus c'est compliqué d'agir et plus du coup il peut y avoir besoin de soins, on va dire, forts ou en tout cas longs. Donc c'est sûr que il y a encore ce délai qui est encore trop long d'accès à la consultation et je pense que les explications elles sont multiples. Il y a la stigmatisation des maladies, il y a aussi la stigmatisation et le manque de connaissances envers les soins et rien qu'on voit la confusion autant des termes psy qu'on utilise depuis le début de l'émission où tout un chacun ne sait pas encore bien exactement ce qu'est la différence entre un psychologue, un psychiatre et un psychanalyste. C'est sûr qu'il y a vraiment un manque d'éducation sur la santé mental en l'occurrence.
Alors, allons-y rapidement parce que bon, on peut pas y passer toute l'émission, mais la différence entre le psychiatre, le psychanalyste et le psychologue.
Bien sûr. Alors, de manière très synthétique, au risque de froisser des confrères, donc le psychiatre c'est un médecin qui se spécialise sur la santé mentale, donc qui se spécialise sur le soin de la maladie psychique, qui va de la dépression à la schizophrénie. Le psychologue, ça va être quelqu'un qui se spécialise, qui fait des études de psychologie, donc qui va étudier le fonctionnement psychique, qui peut ensuite devenir clinicien, donc exercer auprès de patients, mais qui peut aussi faire totalement autre chose. Le psychanalyste, ça va être quelqu'un qui est formé à une, on peut dire, une forme de psychothérapie, même si je sais que c'est pas, ça fait pas forcément référence pour tout le monde, mais un type de manière d'aider les personnes avec la parole.
Mais
je
vous laisse Sophie Cadalène. Maître mot pour la psychanalyse, c'est l'inconscient, en fait. Et une autre répartition possible, on va souvent mettre la psychothérapie psychologique du côté du conscient, la psychanalyse du côté de l'inconscient, effectivement, la psychiatrie du côté du corps, au sens de la pathologie, des dysfonctionnements, des troubles. Mais tout ça se croise, évidemment, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de concurrence.
Non. Psy au pluriel, quoi, comme ça ce sera plus simple. Maude nous écrit sur l'appli de France Inter, la forte présence de ces sujets sur les réseaux est aussi un signe de la difficulté d'être pris en charge correctement. En ce qui concerne la santé mentale, j'ajoute que ce terme me heurte. La santé mentale, c'est de la santé tout court. J'ai 29 ans, j'ai été diagnostiqué correctement il y a seulement quelques mois après des années d'errance. Et parler, suivre certains comptes sur les réseaux m'ont aidé bien avant d'être prise au sérieux par mes proches ou par des professionnels. Cyrine Amiri, est-ce que c'est ce type de témoignage que vous avez souvent ?
Je dirais pas que c'est le type de témoignage qu'on a souvent. Pour autant, il est vrai que les systèmes de santé mentale, désolé d'utiliser ce terme, effectivement, c'est de la santé en général, sont saturés très vite. En tout cas, au niveau universitaire, on le rappelait tout à l'heure, un équivalent temps plein psychologue pour 30 000 étudiants. Vous vous doutez bien que si les 30 000 étudiants ne vont pas très bien, même si que 1000 étudiants ne vont pas bien, bah, ça marche pas. Parce que c'est très vite saturé. Donc, effectivement, c'est difficile d'avoir accès aux soins.
Jean-Claude nous dit également, peut-on évoquer les difficultés qu'éprouve la province à trouver un soignant et être prise en charge en milieu hospitalier? Alors c'est vrai qu'il y a une différence à ce niveau-là, Jean-Victor Blanc, vous qui êtes psychiatre à la PHP, donc à Paris, entre la province et ce qui se passe plutôt dans les grandes villes?
Bien sûr, malheureusement, l'évolution démographique, elle suit celle de l'évolution démographique globale des soins. Et c'est vrai que c'est plus difficile de trouver un spécialiste en province et notamment dans certaines régions que dans le centre de Paris. Et malheureusement, c'est plutôt Paris a tendance à rejoindre la province dans le sens où on avance vers un désert médical. On va dire que le désert médical continue d'avancer et notamment en psychiatrie où la situation est encore plus, on peut dire, un peu désespérée, en tout cas préoccupante, puisqu'on sait que justement la psychiatrie reste aussi assez stigmatisée parmi les médecins et qu'on manque de jeunes étudiants qui vont faire cette spécialité. Donc on sait
ça
que...
Ça n'intéresse pas les jeunes...
Disons que ça fascine, mais il y a beaucoup d'idées reçues sur les psychiatres, comme quoi il faudrait être fou pour être psychiatre, ou qu'il faudrait d'ailleurs être vieux pour être psychiatre, puisque très souvent on me fait remarquer que je suis très jeune et qu'on ne s'attend pas à ce qu'un psychiatre soit aussi jeune, comme s'il faudrait attendre 60 ou 70 ans pour commencer
à avoir un peu bavé pour pouvoir comprendre le fonctionnement de la souffrance psychique. Angelo Follet, depuis la pandémie, vous ne faites plus que de la téléconsultation. Qu'est-ce que ça change dans votre façon de travailler?
Alors je fais encore quelques consultations au cabinet, mais c'est vrai que en plus moi j'ai déménagé pendant la pandémie, donc ça a augmenté la volonté de faire ça à distance. Il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Évidemment, le plus gros point négatif, c'est que nous ne sommes pas dans un espace un espace-temps commun, je dirais, physiquement. Donc il y a pas mal d'éléments qui peuvent être court-circuités par la qualité de la connexion, par la qualité du son, par l'écran, par le fait que la personne n'a pas forcément un espace chez elle ou là où elle est pour être isolée et être tranquille pour pouvoir faire sa séance. Donc ça, évidemment, ce sont des contraintes géographiques et physiques. En revanche, ce qui est intéressant d'observer, en tout cas moi dans la clinique que j'ai, c'est qu'on a parfois accès à son univers. C'est-à-dire que j'ai des ados, par exemple, qui finalement décident de faire leur séance dans leur chambre. Ils disent à leurs parents de partir pendant une heure, pour être tranquille. Et puis, finalement, on peut interroger un élément qu'il y a sur le mur, une photo, un dessin, un poster, une plante, n'importe quoi. Et en fait, ça permet aussi, je trouve, d'avoir accès à une partie de l'univers de la personne auquel on n'a pas toujours accès quand on pose la question et qu'on est en cabinet. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients, mais je dirais que moi l'avantage que je pourrais avoir en tirer par rapport à ça, c'est que du coup il n'y a pas besoin d'être là où j'habite ou là où je travaille pour pouvoir me consulter, quoi.
Sophie Cadalen, est-ce que ça peut être la même chose en psychanalyse où il y a quand même ce rituel, pour certains c'est s'allonger sur le divan, retirer ses chaussures, ça participe d'un rituel.
Ah, les chaussures ne sont pas retirées souvent. Hein, mais... j'allais dire, je dois avouer, mais enfin, il n'y a pas d'aveu là-dedans. Mais jusqu'ici, je ne l'avouais pas justement à mes confrères qui me regardaient sinon d'un air un petit peu pincé. Je faisais déjà de l'analyse par téléphone parce que des patients étaient partis à l'étranger, parce que certains étaient justement en province et qu'ils n'avaient pas possibilité de venir.
Mais par téléphone, pas en mais visio, par téléphone. Comme vient de le dire.
Le principe de la psychanalyse, c'est justement de parler. C'est la cure par la parole, c'est le divan. On coupe justement du face-à-face pour laisser libre la parole, les associations, pour aussi que mon écoute soit d'ailleurs plus libre. Donc finalement, l'écran n'était absolument pas indispensable. Alors ceux qui, là, justement, ça s'est accéléré, il n'y a plus que du téléphone, certains voulaient de la visio, j'ai accepté, et de même d'ailleurs, ils disaient que ce n'était pas la peine. Et finalement, c'est encore une fois une possibilité différente, que chacun utilise différemment, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est du plus.
Mais c'est utile. Eh bien merci à tous les quatre d'avoir été en direct avec nous, le débat de midi, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour se demander s'il faut quitter les grandes villes. On attend déjà vos commentaires et vos réactions sur l'appli de France Inter.